Vous écoutez RTL.
On ouvre le second chapitre de notre curiosité sur RTL, changement d'univers, direction le hameau de la Reine à Versailles. Bonjour Jérémy Benoît.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes conservateur général chargé des Trianon au château de Versailles. Le hameau de la Reine qui vient d'être restauré, ouvert au public depuis le 3 mai. C'est une partie particulière, c'est ça? C'est un morceau du hameau qui a été restauré et qui est de nouveau accessible?
Oui, c'est là en fait la maison de la Reine essentiellement, qui se compose en réalité de deux maisons, la maison de la Reine proprement dite et la maison du billard. Ces deux maisons sont reliées par une galerie et donc l'ensemble se situe au sein du village du hameau, comme qu'on appelle le hameau, donc sur les confins du domaine de Versailles.
Mais cette maison de la Reine, on pouvait la visiter ou c'est la première fois qu'on peut voir ce qu'il y a à l'intérieur?
Écoutez, elle n'a jamais été visitée et je peux vous dire que personne de vivant vraisemblablement l'a vue remeublée. Donc c'est vraiment une nouveauté totale. C'est même une redécouverte pour la conservation de Versailles, puisque jamais on ne pouvait imaginer à quel point ça pouvait être luxueux à l'intérieur, quand on voit les extérieurs si rustiques.
La Reine à la ferme, c'est un peu le titre de l'histoire qu'on va vous raconter maintenant sur RTL. Mais d'où venaient les paysans qui se sont installés là-bas en 1786? Réponse surprenante à venir dans la curiosité.
Tout au nord du domaine royal, loin des ors du château, voici le hameau de la Reine.
La curiosité est un vilain défaut.
L'un des endroits les plus surprenants de Versailles. On y trouve de la vigne, une ferme qui abrite, comme au XVIIIe siècle, une basse-cour.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Mais aussi 8 chaumières aux allures normandes et aux toits de chaume. Des matériaux si simples qu'ils ont mal résisté au passage du temps.
Les curieux sont sur RTL.
On visite le hameau de la Reine Marie-Antoinette dans la curiosité grâce à Jérémy Benoît, conservateur général au château de Versailles. Quand et pourquoi, Jérémy Benoît, la Reine Marie-Antoinette se lance-t-elle dans ce projet de petite ferme, en quelque sorte, en plein domaine de Versailles?
Alors, il faut en fait distinguer le hameau lui-même, qui est une sorte de petit village, même, je dirais, une sorte de château éclaté dans la nature, un peu à la mode du temps, c'est-à-dire très rustique, proche de la nature, dans l'esprit de Jean-Jacques Rousseau. Et puis, il y a d'autre part la ferme, qui fut construite après le hameau. Le hameau était construit de 1783 à 86, et la ferme à partir de 86. Donc c'est tout un ensemble, si vous voulez, d'une façon de vivre nouvelle, aristocratique à la fin du XVIIIe siècle. Encore une fois, bien dans l'esprit du retour à la nature, de la découverte du travail également, le travail des paysans, puisque la France est avant tout paysanne à cette époque. C'est également, il y a tout une dimension véritablement éducative qu'il ne faut jamais oublier dans le hameau. C'est celle de la formation du dauphin à son futur métier de roi. Il s'agissait de le mettre en contact avec la paysannerie française de manière à lui montrer ce que serait son travail et comment gouverner son peuple, si vous voulez. Donc, bien entendu, il y a eu des fêtes au hameau. C'était également un lieu festif, un lieu de promenade pour la reine et sa petite cour. Mais il y a cette dimension essentielle, très intellectuelle finalement, qui est d'un retour à la nature.
Donc c'est pas juste un décor, c'est pas juste une posture de Marie-Antoinette qui veut sa petite ferme. Il y a des paysans dans ce hameau de la reine?
Oui, il y a des paysans. Dès 1785, la reine fait venir effectivement du Valais un couple de paysans qui s'appelle Valli-Bussard. Ce sont donc eux qui s'occupent à la fois des volailles, etc., mais également des porcs qu'il pouvait y avoir, des petites chèvres et également du troupeau de vaches.
Mais donc ils sont suisses, hein, le Valais, c'est
ils sont suisses.
Pourquoi on n'a pas fait venir des paysans de telle ou telle région française?
Alors ça, nous l'ignorons.
Moi, je me suis dit, c'était pour ne fâcher personne.
Oui, c'est fort possible. Non, je pense surtout que...
Ils étaient déjà neutres, les Suisses.
C'est ça, oui, tout à fait. Oui. Il faut surtout savoir que la découverte de la montagne est à la mode en cette fin du XVIIIe siècle. C'est l'époque où, pour la première fois, on monte au sommet du Mont Blanc. Et donc, je pense que la Suisse était tout simplement la référence obligée, si vous voulez.
Jérémy Benoît, la reine Marie-Antoinette, elle y va souvent dans ce hameau de la reine, donc comme on l'appelle aujourd'hui. Elle y va à quelle fréquence? C'est tous les jours, toutes les semaines? Elle y fait quoi?
Alors, il s'agit essentiellement d'une maison d'été, hein, bien sûr. Tout simplement, les décors à l'intérieur le montrent. Hein. Il y a le grand salon jaune qui montre un soleil radieux, si vous voulez. Non, c'est un lieu de promenade, tout simplement. Ce n'est pas un lieu de villégiature. Il y a, comme dans tout château, même si celui-ci est très rustique, il y a un appartement. Mais la reine
n'y dort pas?
Non, vraisemblablement, elle n'y a jamais dormi. Il fallait qu'il y ait un appartement, c'est tout. On ignore, si vous voulez, le détail de la vie courante au hameau de la Reine à la fin du XVIIIe siècle. On ne peut imaginer que tous les deux, trois jours, surtout au début, on y allait faire un tour.
C'est une façon d'échapper au protocole. C'est une réalité, ça? Ou alors c'est une idée reçue qu'on a fabriquée après? Parce que ce protocole, il était très lourd, on a du mal à l'imaginer.
Oui, alors Marie-Antoinette était autrichienne et la cour d'Autriche était beaucoup plus allégée, si vous voulez, dans son protocole que la cour de France. Et Marie-Antoinette, dès les débuts, a eu des difficultés à s'adapter à cela. C'est l'une des raisons pour lesquelles Louis XVI lui a donné le Petit Trianon. Alors, il ne faut pas non plus couper le hameau du Petit Trianon. Il fait partie de l'ensemble de ce château, de l'ensemble des jardins du Petit Trianon. C'était une façon, effectivement, pour la reine de s'extraire de la cour de Versailles. Et il y a un élément qu'il ne faut absolument pas négliger, bien entendu, c'est l'affaire du Collier en 1785-86, qui fait que la reine est tellement attaquée par les journalistes, les libellistes de l'époque, qu'elle se réfugie toujours plus au Petit Trianon et donc de ce fait également au hameau.
Le hameau comme un havre de tranquillité pour la reine et donc un lieu d'éducation pour le dauphin. Mais on lui apprenait quoi au dauphin? Réponse à venir sur RTL.
Bonjour, c'est Christelle Rebière.
Bonjour, c'est Stéphane Carpentier.
RTL Midi.
RTL Midi, c'est tous les jours le grand carrefour de l'information à la mi-journée.
90 minutes pour vivre en direct l'actualité, mais surtout pour mieux la comprendre.
Explication, décryptage pour aller au fond des sujets avec la rédaction et nos invités.
Sans oublier vos commentaires, vos témoignages, RTL Midi, c'est avant tout votre émission.
Nous attendons vos appels au 3210 et vos réactions sur la page Facebook Les Auditeurs ont la parole et le compte Twitter RTL Midi.
RTL Midi, 12h30, 14h, avec Christelle Rebière et Stéphane Carpentier, débattre pour mieux comprendre l'actualité.
Construite dans le parc de Versailles, cette ferme boudoir est le refuge de Marie-Antoinette, loin des intrigues de la cour.
La curiosité est un vilain défaut.
Durant deux siècles, le hameau de la reine a gardé portes et volets clos. Les vicissitudes de l'histoire et du temps avaient détruit les pièces d'habitation.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
3 ans ont été nécessaires pour restaurer l'édifice. Faute de moyens, c'est un mécène privé qui a mis la main à la poche.
Bienvenue sur RTL, les curieux.
Et c'est une belle nouvelle pour tous les visiteurs potentiels que nous sommes. Le hameau de la Reine vient d'être entièrement restauré et on peut désormais visiter la maison de Marie-Antoinette. L'occasion pour les curieux que nous sommes de revivre cette fin du XVIIIe siècle à Versailles avec Jérémy Benoît qui est conservateur général chargé des Trianons et donc du hameau. Alors la reine et son entourage qui jouaient à la petite fermière dans ce hameau, c'est un peu l'image qu'on a, c'est l'image d'Épinal. Est-ce qu'elle jouait vraiment à la fermière Marie-Antoinette ?
Non, écoutez, c'est justement une légende qui court, qui est un petit peu d'une vision révolutionnaire, si vous voulez. En fait, on accusait la reine de déroger à son statut de reine en vivant simplement entourée de ses amis, de sa petite cour, dans les jardins de Trianon. Donc, en fait, elle portait une gaule, ce qu'on appelle une gaule, c'est-à-dire une robe de mousseline très légère, elle portait des chapeaux de paille, etc. Elle n'était plus à l'image de ce que l'on attendait de la reine de France, c'est-à-dire dans ses grands atours, en parade permanente dans le château de Versailles. Donc on l'a accusée et les révolutionnaires se sont emparés de cette idée pour véhiculer cette image d'une reine qui n'était pas du tout à la hauteur de la situation, ce qui était faux.
Mais vous parlez de cette petite cour, qui était invité au Trianon ou au hameau de la Reine avec Marie-Antoinette?
Alors écoutez...
Quelques personnes, quelques dizaines de personnes, juste pour se rendre compte.
Oui, c'est à peu près ça, oui, ouais. Tout à fait. Il y avait la duchesse de Polignac, il y avait... Madame la princesse de Chimay, il y avait le comte d'Artois également qui était assez proche de la reine, futur Charles X, le frère de Louis XVI. Il y avait le prince de Ligne qui venait également, le comte d'Adhémar. Toute cette petite cour jouait sur le théâtre de Marie-Antoinette. On tenait des rôles, hein. On a joué Rose et Colas, des pièces de Sodène, des pièces de Beaumarchais comme le Barbier de Séville. Voilà, on s'amusait si vous voulez, mais dans une culture à la mode du temps si vous voulez.
Et ce qui est intéressant aussi en visitant ce hameau de la reine, on découvre que Marie-Antoinette, ce n'était pas qu'une petite gamine gâtée qui jouait à la fermière. C'était une femme qui aimait faire grandir, évoluer. Et c'est elle aussi, notamment, qui a développé ce hameau, parce qu'il y a plein de nouveautés. Il y a un réchauffoir, il y a des tas d'endroits, en fait, comme ça, qui sont un peu nouveaux à l'époque.
Alors, le réchauffoir, non, c'est pas quelque chose de nouveau. Généralement, les cuisines dans un château sont toujours relativement éloignées du château lui-même. Donc, on amène les plats dans un réchauffoir pour préparer, justement, à servir dans les salles à manger.
La laiterie, c'est un endroit nouveau.
La laiterie,
nouveau,
c'est
par
quelque
exemple.
Chose de plus nouveau, mais ouais. On en connaît également à Chantilly. Le prince de Condé avait lui-même son hameau. La reine avait également une laiterie, beaucoup plus belle d'ailleurs encore, peut-être que celle de Versailles à Rambouillet, hein, tout simplement. Un très beau bâtiment.
Donc elle a rien créé, Marie-Antoinette, dans ce hameau ?
Alors,
c'est pas elle qui a supervisé les travaux ?
Oui, c'est elle qui a supervisé, puisque en fait, c'est Hubert Robert, le peintre, qui a dessiné les modèles des maisons en s'inspirant des maisons normandes, repensées dans un style très pittoresque dans l'esprit du XVIIIe siècle. L'architecte Richard Mick, premier architecte du roi, les a construites, mais on avait soumis en fait à Marie-Antoinette des maquettes qui malheureusement ont disparu, en tout cas ne sont plus connues, et vraisemblablement pour étudier les perspectives, la disposition des maisonnettes dans l'espace. Donc on peut parfaitement imaginer que la reine a souhaité avoir certaines choses auxquelles les artistes se sont conformés. C'était une reine constructrice, comme je fais valoir justement à travers ce hameau.
Et Jérémy Benoît, avec donc cette dimension pédagogique, quel âge avait le dauphin et qu'allait-il apprendre dans ce hameau de la reine ?
Alors, le premier dauphin qui malheureusement est mort en juin 89, ce que l'on ignore très souvent, puisqu'on ne connaît finalement que le deuxième dauphin, qui est le futur Louis XVII, le premier dauphin était né en 81, donc en fait il avait 4-5 ans au moment de la construction du hameau. Lorsque la ferme a commencé à se construire en 86, il avait donc 6 ans.
On lui montre quoi ? On lui montre comment on traite une vache, je ne sais pas.
On lui montre les animaux, vraisemblablement. Ouais. Il y avait des chèvres qui servaient également pour l'amusement des enfants royaux, puisqu'il y avait des carrosses, des petits carrosses miniatures, si vous voulez, tirés par des chèvres. Il y avait différents animaux. On sait qu'il y avait des cochons également, les poules, la volaille, etc. C'était vraiment pour mettre le dauphin au contact de la population paysanne du temps, si vous voulez.
La curiosité continue sur RTL. Dans un instant, vous allez découvrir qui a sauvé le hameau de la destruction après la Révolution. À tout de suite, les curieux.
La curiosité est un vilain défaut.
Alors que rien dans son éducation ne prédestinait Marie-Antoinette à régner un jour, son sort fut scellé pour consolider une alliance franco-autrichienne très fragilisée.
RTL.
En 1774, Louis XVI accéda au trône et Marie-Antoinette devint reine de France à l'âge de 19 ans.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Louis XVI lui offrit le Petit Trianon, un domaine qui devint aussitôt son refuge loin de la cour de Versailles.
Soyez fiers d'être curieux avec RTL.
Et dans cette zone du château de Versailles, il y a effectivement le Petit Trianon et donc ce hameau de la reine que l'on visite grâce à notre guide Jérémy Benoît, qui est conservateur général chargé des Trianons au château de Versailles. On en parle aujourd'hui dans la curiosité sur RTL, parce qu'il y a cette maison de la reine qui a été entièrement rénovée et qu'on peut désormais visiter. Pour comprendre comment ce lieu est meublé, il faut d'abord dire d'un mot que la reine a très peu profité de ce hameau à cause de la Révolution.
Oui, tout à fait. Le hameau a été achevé en 1786, avec quelques petits remaniements, évidemment, dans les années qui suivent. Mais en 89, évidemment, elle quitte Versailles pour ne jamais revenir. Elle sera guillotinée en 93, donc elle a très très peu, effectivement, profité du hameau.
Et ce lieu aurait pu être détruit. En tout cas, il a commencé à s'abîmer. Qui l'a sauvé une première fois ? Qui l'a rénové une première fois, ce hameau de la
Alors, la première rénovation date, en fait, de Napoléon, en 1810. Le hameau avait été squatté pendant la Révolution, donc au sortir de la Révolution, il était évidemment en très très mauvais état. Napoléon était obligé de détruire deux maisons, il en a sauvé d'autres in extremis, hein, le boudoir et la laiterie précisément. Donc c'est la première restauration avec quelques petites transformations.
Il le fait pour le plaisir de l'histoire, de sauvegarder l'histoire, ou il a l'intention de l'offrir à une dame ?
Alors oui, effectivement, la première restauration du hameau donc a été faite pour l'offrir donc donc à la deuxième épouse de Napoléon, donc l'impératrice Marie-Louise, épousée en 1810. Donc le remeublement intervient en 1811.
Ah, parce qu'elle va en profiter, Marie-Louise ?
Elle va en profiter également très peu, puisque comme vous savez, l'Empire chute en 1814. Donc là encore, ce n'est qu'un lieu de passage, bien que là, pour le coup, nous sachions qu'il y a eu une véritable très grande fête le 25 août 1811, où le hameau a été mis à contribution. Sur le lac, il y avait les musiciens du maître de musique de la reine, de l'impératrice, pardon, le musicien Paër, donc, qui jouait des musiques différentes, etc., sur les barques.
Et donc, le mobilier que l'on peut voir aujourd'hui, il date de cette époque ? Il date de l'époque napoléonienne, c'est ça ?
Oui, effectivement, nous avons choisi de remeubler la maison de la reine avec le mobilier de l'impératrice Marie-Louise, tout simplement parce que si nous conservons à Versailles plusieurs objets de l'ameublement de la reine Marie-Antoinette, nous n'en avions malheureusement pas assez pour pouvoir remeubler l'ensemble. Donc le choix s'est porté sur celui de l'impératrice Marie-Louise.
C'est beau.
C'est exceptionnel, je dois dire, et c'est surtout très inattendu. Autant les maisons sont rustiques, autant les intérieurs sont luxueux, en particulier au premier étage. Il y a un immense salon jaune, un salon de réception, qui est absolument radieux, avec des soieries peintes, qui sont une reconstitution d'après les originaux que conserve Versailles, bien sûr. C'était l'œuvre d'un soyeux qui s'appelait Antoine Vauchelet, qui travaillait sous l'Empire, donc c'est totalement inattendu. Le style est très antiquisant, puisque c'est l'époque néoclassique, bien sûr. Finalement, nous sommes assez peu éloignés du style de Marie-Antoinette, bien que ce soit un peu plus simple dans les lignes. Nous sommes sous l'Empire, mais on peut reconnaître qu'entre les chaises de la salle à manger de Marie-Antoinette et celles de Marie-Louise, par exemple, les dossiers de ces sièges sont en forme de lyre. Donc le style continue d'une femme à une autre. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a que 25 ans d'écart entre les deux ameublements.
Et il y a toujours ce moulin du hameau de la Reine. Est-ce qu'il a déjà fonctionné ?
Alors le moulin a peut-être fonctionné, c'est pas impossible. En tout cas, la rivière anglaise, qui est artificielle bien sûr, fonctionne, enfin s'écoule si lentement que la roue du moulin ne fonctionne plus de nos jours. Mais le moulin est un lieu incontournable dans un village de l'époque. Bien sûr, on a besoin de moudre le blé pour faire de la farine, hein, tout simplement. Donc il en fallait un également. C'était en fait un lieu de réception également. Il y avait des petits salons assez luxueux. Hein, faut pas l'ignorer non plus.
Merci beaucoup, Jérémy Benoît. Grâce à vous, comme ça, on s'est plongé dans l'ambiance de l'époque et vraiment, on vous donne ce conseil. Allez visiter le hameau et la maison de la reine, ouverte pour la première fois au public. C'est dans le parc du château de Versailles et c'est juste magnifique.
Vous écoutez RTL.